Oui, il y avait un point de presse du nouveau trio santé tantôt à 13h. François Legault est encore là, Christian Dubé est encore là. Et bien, on a un nouveau directeur de la santé publique. Il s'appelle Luc... Luc Bibeau. Pardon. Donc, voilà, et qui remplace Horacio Arruda. Et c'est une mesure très forte qui a été annoncée... Luc Boileau, pardon. C'est une mesure très forte qui a été annoncée par le premier ministre Legault. Ceux qui ne sont pas vaccinés, les adultes non vaccinés, qui refusent le vaccin... On ne parle pas de ceux qui ont une condition médicale reconnue par un médecin. Ceux qui refusent de se faire vacciner vont devoir payer une contribution santé significative. C'est le mot qui a été employé par le premier ministre. On n'a pas mis de chiffres encore, on n'a pas mis de dollars, mais ça risque de coûter cher à ces gens-là. Donc, c'est une autre façon de les inciter à se faire vacciner. Le ministre Dubé a parlé du délestage. Le ministre Dubé a aussi parlé des jours très sombres qui s'en viennent dans les hôpitaux. Là, si vous suivez l'actualité, vous le voyez, ben, il y a des choix cruels qui s'en viennent. On va parler de tout ça avec Joseph Dayen. Vous le connaissez bien, médecin intensiviste à l'hôpital Cité de la Santé de Laval. Joseph, salut.
Bonjour, Patrick.
OK. Là, d'abord, on va faire un état des lieux. À quoi ça ressemble présentement dans les hôpitaux?
Bien, plus occupé que jamais, avec une montée fulgurante des cas de COVID pour un bassin de ressources qui est diminué comparativement aux vagues précédentes, expliqué en partie par la diminution de ressources humaines parce qu'ils sont infectés par la COVID ou parce qu'il y a un épuisement sur le terrain, et aussi à cause des capacités physiques, parce que la COVID fait en sorte qu'il y a des règles de prévention et contrôle des infections qui demande qu'il y ait plus d'espace entre chacun des patients, donc probablement moins de lits dans nos capacités physiques, nos hôpitaux qui sont pas faits pour des maladies transmissibles par les aérosols comme la COVID. Donc, le climat est tendu et c'est très occupé. Puis la dernière chose que je dirais, que c'est aussi des vases communicants, fait que les hôpitaux étaient déjà sous tension, sous pression, parce qu'on traitait les non-COVID, le rattrapage des patients qui ont été délestés dans les vagues précédentes. Donc là, il était déjà dans nos lits, puis là, ben chaque patient COVID, ben ça prend la place d'un de ces patients-là non COVID.
Joseph, je me permets de te tutoyer parce qu'on se parle souvent là, en dehors des ondes. Tu soignes tout le monde, tu me l'as déjà dit quand je t'ai approché pour une chronique l'été dernier, puis je t'ai dit, écoute, il y a beaucoup de gens qui me parlent du fait que on accepte de soigner tout le monde. Hein? Et il y a des gens qui voudraient que les gens qui ne sont pas vaccinés soient mis, disons, sur le siège arrière, qu'ils soient soignés quand on a de la place. Toi, comme plusieurs autres médecins, tu m'as dit, on peut pas faire ça, faut pas faire ça, on soigne tout le monde aux soins intensifs. Mais les soignants, là, quand ils se retrouvent devant quelqu'un qui a refusé le vaccin, qui a combattu l'idée du vaccin, est-ce que ça change votre approche?
Ça ne change pas notre approche. Je sais que plusieurs d'entre nous utilisons ces occasions-là pour les convaincre, leur faire réaliser que leur décision les a pénalisés au niveau de leur santé. Ils se retrouvent parfois avec des conséquences permanentes sur leur état fonctionnel ou sur leur qualité de vie parce qu'ils ont fait un séjour aux soins intensifs. Puis parfois, sur le coup, tu réalises pas la gravité de la situation. Donc, on passe beaucoup de temps à les convaincre, à les éduquer. Puis, je vous dirais que l'impact que ça a sur les gens autour d'eux, les gens qui parfois partageaient des valeurs similaires, la méfiance par rapport à la vaccination, qui, lorsqu'ils voient leur être cher intubé ou ventilé aux soins intensifs, prennent la décision de se vacciner, de vacciner leurs enfants, de vacciner leurs amis, c'est quelque chose qui permet de briser la roue de négativité à toujours avoir la remontrance envers ceux qui choisissent de ne pas se faire vacciner. Puis ça nous réconcilie un petit peu. C'est la seule façon de transformer le négatif en positif, humblement. Là.
C'est un phénomène, ça, Joseph Dayen, qui survient souvent. C'est-à-dire que l'entourage de quelqu'un d'hospitalisé se dit « Ouais, OK, là, c'est très concret, puis je vais aller me faire vacciner. »
Ah oui, j'en ai eu un pas plus tard que la fin de semaine dernière. J'ai eu malheureusement quelqu'un de jeune là qui est décédé après 45 jours aux soins intensifs. Et puis ce que la famille m'a dit avec tristesse mais zénitude, c'est qu'au moins sa mésaventure en aura convaincu plusieurs d'autres autour de lui de se faire vacciner.
OK. Joseph Dayen, là, les soignants sont au front présentement. Aux soins intensifs, c'est vraiment les tranchées. Est-ce que dans les administrations, est-ce que dans l'organisation du système de santé, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon d'aborder le traitement de cet afflux de patients-là? Est-ce qu'il y a, dans le fond, est-ce qu'il n'y a pas un défi? Constates-tu une sorte de déficit d'imagination dans la façon de traiter, d'accommoder tout le monde?
Le délestage qu'on entend là depuis longtemps, qui consiste à mettre sur pause les soins de certains patients pour réalloquer les ressources vers les services où on peut pas qu'on peut pas mettre sur pause, donc un COVID qui se présente en insuffisance respiratoire, qui a besoin d'oxygène, qui a besoin d'être intubé, si on ne soigne pas tout de suite et maintenant, il va décéder. Par contre, en mettant sur pause les soins, on met pas sur pause la maladie des patients non-COVID. Et dans le fond, on fait juste pelleter les problèmes par en avant et on les revoit entre les vagues de COVID avec des cancers plus avancés, avec des maladies cardiaques plus avancées, avec des maladies chroniques débalancées. Puis ils sont à l'hôpital avec à occuper des lits plus malades qu'ils ne l'auraient dû. Donc effectivement, 2 ans plus tard, c'est pas normal qu'on n'ait pas une solution plus efficace qui nous permettrait de autant soigner les COVID que les non-COVID. Et parce que ce sont des vases communicants à l'heure actuelle, les lits de soins intensifs, les lits d'hospitalisation, un COVID de plus, c'est un non-COVID de moins maintenant, mais pas plus tard. Et effectivement, je pense pas qu'on peut continuer ainsi à pelleter les problèmes par en avant. Il n'y a pas d'autre façon de l'expliquer. Parce que ça pénalise les patients en bout de compte, que ce soit le COVID qui n'est pas soigné et qui va mourir d'insuffisance respiratoire ou le patient qu'on retarde sa chirurgie oncologique pour qui le cancer va progresser.
Quelle sorte de mesure t'aimerais voir le système essayer?
Quand on essaye de regarder comment accommoder au sein de nos propres murs les deux populations, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on veut élargir le bassin de lit, comme celui des soins intensifs, on finit toujours par aller gruger des lits ailleurs, que ce soit la salle de réveil du bloc opératoire, la salle de réanimation de l'urgence ou l'unité coronarienne, d'autres endroits sécuritaires où on peut monitoriser, intuber, ventiler un patient. Il n'y en a pas tant que ça là, dans nos hôpitaux. Et donc, ça a quand même un impact de réduire l'activité de ces départements-là. Donc, finalement, on pensait bien faire, mais on se retrouve à la case départ, c'est-à-dire que en tentant de pas ralentir nos activités, de pas ralentir ces activités-là chirurgicales-là, pour prendre cet exemple-là le plus criant, ben on finit quand même en empruntant leurs ressources, leur personnel, leur lieu physique, à les obliger, à les forcer à réduire leur activité. Donc peut-être qu'il va falloir essayer de trouver des solutions où chaque hôpital ne devrait pas indépendamment et de façon autonome trouver comment accommoder les deux petites clientèles, mais faire ce qu'on n'a jamais fait auparavant, puis pour le dire explicitement, dédier des hôpitaux où on peut soigner de la COVID, puis ajuster la capacité selon la demande et continuer à soigner les non-COVID, les patients verts, entre guillemets, dans des installations occupées pour avec des N95, avec des dépistages pour s'assurer qu'il n'y a pas d'éclosion, puis ne pas ralentir et ne pas pénaliser les non-COVID.
Intéressant. Dernière question, Joseph Dehaene. Le PM a annoncé là, qu'on va imposer une contribution spéciale aux gens non vaccinés. Penses-tu que ça va être utile pour les pousser à se faire vacciner?
Dans mon monde idéal, on n'aurait pas besoin de ça pour convaincre les gens de se faire vacciner. Là, les bénéfices sur leur santé devraient parler d'eux-mêmes. Maintenant, je suis content qu'on n'ait pas cédé à la tentation de les pénaliser en ne les soignant pas, parce qu'ils se pénalisent déjà eux-mêmes en ne se faisant pas vacciner. Ils écopent de maladies qui les amènent à l'hôpital. Maintenant, il y a une autre mesure pour tenter de les convaincre de se faire vacciner. En économie de la santé, il y a toujours des conséquences parfois à imposer une telle mesure comme ça. On parle d'externalités qui peuvent être négatives. Donc, il va falloir voir la forme de cette mesure-là. Mais on peut imaginer que s'il faut payer parce qu'on ne s'est pas fait vacciner, c'est peut-être de l'argent qu'on n'a pas pour envoyer nos enfants faire du sport, acheter de la nourriture de meilleure qualité. Donc, peut-être que ça va créer d'autres problèmes. Je pense que des gens plus intelligents que moi devront faire l'analyse de tout ça.
Merci, Joseph. Bonne journée. Salut, c'était Dr. Joseph Dehaene, médecin en soins intensifs. On va aller parler avec Philippe Quentin.